Décryptage. Marion Kazanov.
Le plastique semble avoir de beaux jours devant lui. Les délégués de 175 pays négocient en ce moment à Busan, en Corée du Sud, au sommet de l'ONU sur la pollution plastique. Des négociations aussi moroses qu'à la COP29 de Bakou la semaine dernière. Il est possible qu'aucun accord ne soit trouvé d'ailleurs pour limiter cette pollution. Alors quelles sont les solutions les plus efficaces pour lutter contre celle-ci? Pourquoi a-t-on tant de mal à s'entendre sur un sujet qui semble faire consensus? Peut-on ou veut-on vraiment en finir avec le plastique? On répond à ces questions ce soir dans Décryptage. Soyez les bienvenus. Deux invités par téléphone pour répondre à mes questions. Bonsoir Eva Moreau.
Bonsoir.
Co-créatrice de l'association La Fresque du Plastique, représentante de la société civile à ce sommet de Busan. Il est 2h du matin en Corée du Sud, donc merci de veiller tard pour nous. Et bonsoir Mathéo Cordier.
Bonsoir.
Maître de conférence en économie écologique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, université Paris-Saclay. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Posons le cadre d'abord. Le plastique, on en trouve partout, emballages, appareils technologiques, vêtements. Cette année, on devrait consommer plus de 500 millions de tonnes de plastique dans le monde. Les conséquences de cette pollution s'observent notamment dans les océans.
On parle d'un effet cocktail. Donc là, on travaille sur des moules, des huîtres. Eux, c'est un peu des accumulateurs de polluants. Donc là, sur les moules, en fait, on va regarder différentes choses. On va regarder leur croissance. Et puis après, on regarde les embryons. Il va y avoir des malformations. Au lieu d'avoir deux pattes, ils vont avoir trois pattes, quoi. Un poisson qui va se nourrir de zooplancton, dans son assiette à midi, il a autant de plastique que de nourriture normale. Pour que des poissons se reproduisent, il faut que la femelle elle envoie ses ovules et le mâle ses spermatozoïdes au même moment. À partir du moment où on a des perturbateurs endocriniens, la femelle elle va envoyer ses ovules à n'importe quel moment. C'est dérégulé en fait.
Voilà, extrait d'un reportage de France Inter lors d'une expédition en Méditerranée au large de la Ciotat en France. Donc quand on parle de pollution plastique, le plus dangereux, c'est le plastique qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ces microparticules qu'on appelle microplastiques. Eva Moreau, on a vu donc ce que ça faisait sur la biodiversité marine. Ce chercheur nous l'expliquait. Quels autres effets a cette pollution plastique ?
La pollution plastique, elle est partout. Elle est dans l'air qu'on respire, dans le sol, dans l'eau. On entend régulièrement parler de la pollution marine qui illustre vraiment le sujet de la pollution. Mais je vous invite à regarder autour de chez vous. Quand vous sortez, c'est très difficile de voir un endroit qui n'est pas contaminé par du plastique, même dans le sol. Aujourd'hui, en 20 ans, on a quasiment doublé le nombre de déchets plastiques qu'on doit gérer sur la planète. C'est un problème qui touche la biodiversité, c'est à la fois une crise sanitaire. On parle des microplastiques, mais on peut aussi parler des substances chimiques. Notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces notions comme le phtalate ou les retardateurs de flamme, le bisphénol A, ces notions qu'on connaît.
Qu'on rajoute sur le plastique, c'est ça ?
Exactement, c'est qu'on rajoute sur le plastique. Le plastique, c'est un petit peu comme un plat de pâtes où chaque pâte peut avoir des recettes différentes, mais surtout, on ajoute de la sauce dessus, ce qu'on appelle des additifs. Et là, on peut avoir des milliers de recettes différentes. Et ces additifs, ils peuvent avoir des conséquences notables sur la santé, sur le développement de cancers, sur le développement du système endocrinien, etc.
Donc voilà, donc on trouve du plastique partout et notamment aussi dans nos corps. On a tous, Eva Moreau, désormais dans nos organismes, des microplastiques et aussi ces composants chimiques.
Oui, tout à fait. Il y a des études même récentes qui montrent que l'accumulation de microplastiques, notamment dans notre corps, peut affecter une augmentation de la probabilité d'avoir des AVC, des problèmes cardiovasculaires. On retrouve des microplastiques dans le placenta, dans le sang, dans le cerveau. Et aujourd'hui, cette exposition aux microplastiques, elle va augmenter. Aujourd'hui, tous les macroplastiques vont se transformer en microplastiques si on ne les arrête, si on ne les récupère pas, si on ne fait rien. Donc, il y a un gros sujet de, oui, on parle des microplastiques aujourd'hui, mais tous les macroplastiques, donc les gros plastiques, si on ne fait rien, vont se transformer en microplastiques. Et ça, c'est un vrai sujet, notamment pendant les négociations. Comment on fait pour limiter la quantité de déchets qui finissent dans l'environnement, que ce soit des gros déchets ou des petits déchets? À la fin, le résultat est le même sur tous nos écosystèmes.
Et on va revenir sur ces solutions, sur ce dont on discute à Busan. Je cite aussi un autre chiffre. La production plastique a un impact direct aussi sur le climat. Elle émettra 5% de gaz à effet de serre d'ici 2040. On entend aussi beaucoup parler, Mathéo Cordier, de ce fameux continent de plastique, cette île gigantesque qui agglomère des déchets du monde entier. Son analyse récente par l'ONG The Ocean Cleanup montre qu'on peut trouver jusqu'à 10 millions de microparticules par kilomètre carré. C'est 10 fois plus qu'en 2015. Mathéo Cordier, c'est de pire en pire. Est-ce que ça reflète donc le rythme de cette production plastique qui s'accélère ?
Oui, complètement. En fait, la pollution est directement liée à la production. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait que la solution, ce n'est pas uniquement améliorer la gestion des déchets, même si ça peut aider, surtout dans les pays pauvres qui ont des mauvais systèmes de collecte et de traitement des déchets. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est arrêter à la source. Et la source, c'est la production, la consommation de plastique.
Et qui sont justement les plus gros producteurs ?
Les plus gros producteurs, là, je les ai pas en tête comme ça, mais on a des pays qui sont aussi des producteurs de pétrochimie, qui sont le 99% des plastiques, c'est fait à partir du pétrole. Mmh. Donc on a notamment l'Arabie Saoudite, les États-Unis. En Europe, on a aussi l'Allemagne qui est un assez gros producteur. Et donc, il faut agir au niveau de la pétrochimie, freiner à la source, fermer le robinet de la production. Alors, le fermer en partie ou en grande partie. Certains estiment qu'il faut réduire la production de moitié, d'autres de trois quarts, d'autres en totalité. Et ainsi, ce concept hyper important de l'essentialité, les plastiques essentiels, peut-être ne garder que les produits plastiques absolument essentiels pour lesquels aujourd'hui on ne peut pas se passer. Peut-être que dans le futur on pourrait, mais aujourd'hui ce n'est pas possible. Et interdire ceux qui ne le sont pas. Donc typiquement, les bouteilles en plastique, les sacs en plastique, parce que les sacs en plastique, même s'ils sont interdits, les plastiques à usage unique sont interdits en Europe, on a encore des sacs en plastique parce que la loi est trop fragile.
Et justement, vous parlez de ces plastiques essentiels. Juste, Mathéo Cordier, juste en quelques mots, je vous donnerai la parole. Eva Moreau, quels sont ces plastiques essentiels ?
Ben, je pourrais donner un exemple facile, c'est les tubes en plastique pour perfusion intraveineuse dans les hôpitaux. Alors, je ne suis pas expert en la matière, mais on peut imaginer qu'on pourrait considérer ça comme faisant partie de la liste essentielle.
D'accord. Et Eva Moreau, vous vouliez rebondir sur ce que disait Mathéo Cordier ?
Oui, je voulais rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la production en disant que c'est une énorme quantité. Aujourd'hui, on produit 460 millions de plastique par an. Pour moi, c'est beaucoup trop important pour m'imaginer ce que c'est. Donc, on a fait cet exercice de convertir en poids d'humain. 460 millions de tonnes de plastique, ça représente le poids de tous les humains sur Terre. C'est-à-dire que tous les ans, on produit notre jumeau plastique, comme si on avait à côté de nous la quantité de plastique qu'on générait. Et cette quantité, elle est amenée à doubler, voire tripler d'ici 2050, selon les scénarios aujourd'hui. Donc, tout l'enjeu de traiter, c'est de se dire comment on fait pour que cette quantité décroît ? Comment on fait pour que, quand on parle de plastique, il faut gérer les déchets pour réduire la production qui a doublé, voire triplé d'ici 2050.
Alors Eva Moreau, la connexion commence à être un petit peu compliquée. On va voir si on peut peut-être améliorer la ligne. Donc on parle maintenant de ces discussions à Busan en Corée du Sud. Les pays, vous l'avez rappelé Mathéo Cordier, les pays qui bloquent le plus dans ces discussions, ce sont les pays pétroliers parce qu'évidemment ils ont des intérêts. C'est à partir du pétrole qu'on fabrique le plastique. Leur proposition, donc, c'est de favoriser le recyclage, de mieux prendre en charge ces déchets. Pourquoi c'est pas suffisant comme proposition? Le recyclage.
Oui, alors recyclage, c'est une catastrophe en réalité. Alors, ce que je vais dire ne signifie pas qu'il faut arrêter de recycler, continuer à trier et à recycler, bien sûr, mais croire que le recyclage apportera la solution, c'est une illusion, c'est un écran de fumée, et le monde scientifique en est maintenant clairement conscient, et le monde politique commence à l'être également. On peut recycler un objet en plastique une à deux fois. On retrouve dans la littérature parfois certains articles qui disent jusqu'à 7 fois, mais au-delà de une à deux fois, voire maximum 7 fois, le produit recyclé est tellement dégradé au niveau de ses propriétés physiques qu'on ne peut plus le réutiliser. Ça va devenir un déchet de toute façon. Et donc, le recyclage, c'est une façon de repousser dans le temps le problème des déchets, ce qui est peut-être déjà pas si mal, mais enfin, c'est loin d'être la solution parfaite, très loin. Mais au final, on aura quand même un déchet. Et donc, et ce qu'on observe aussi, c'est que la capacité de production de produits en plastique et de déchets augmente tellement vite. On consomme tellement de plus en plus de plastique année après année, que le volume de déchets augmente. Donc si même en augmentant nos capacités de recyclage, on n'arrive pas à suivre le rythme. On est dans une époque de très grande avancée technologique, et bien malgré le fait que nous soyons dans une époque très technologique, la technologie ne suit pas parce que dans un système en croissance, l'économie est en croissance permanente depuis à peu près 2 siècles, on est très fort pour croître, mais on n'arrive pas à suivre au niveau des technologies de recyclage. Et encore une fois, même si on arrive à suivre le recyclage, ça a été, j'ai même envie de dire que c'est un mensonge organisé.
Eva Moreau, sur cette idée du recyclage, seuls 9% hein, des déchets sont recyclés à l'échelle mondiale. Ça pourrait être une bonne idée aussi quand même de mettre l'accent dessus ou de chercher de nouvelles solutions pour le recycler de manière plus efficace. Est-ce que quand même il y a des travaux qui se poursuivent sur cet aspect-là?
Le traité veut mettre en place, en tout cas dans les 31 articles qui sont proposés dans le traité, on a effectivement des sujets sur comment on gère mieux les déchets, comment on les trie, on les collecte, on les sépare et comment on fait ça de façon massive. Là, on touche du doigt un sujet qui est finalement, il y a un gros sujet de gestion des déchets, mais pour mieux gérer les déchets, il faut mieux gérer l'amont de la chaîne de valeur avec pas mal de transparence. Et aujourd'hui, ce qu'on observe dans les négociations, c'est qu'on a un gros clivage entre les pays qui subissent de plein fouet la production plastique et les pays qui mettent sur le marché, qui sont producteurs de pétrole et donc producteurs de plastique derrière. Plus de 95% du plastique aujourd'hui vient du pétrole, je pense que c'est important de le souligner. Et aujourd'hui, le sujet du plastique, c'est un relais de croissance très fort pour les pétrochimistes. On observe potentiellement une décrue de certains usages du pétrole, comme l'essence, mais par exemple le kérosène, qui est utilisé pour les avions, et la pétrochimie, notamment le plastique, ça fait partie des gros enjeux pour les pétrochimistes aujourd'hui. Ils veulent protéger vraiment ces applications. Donc oui, la gestion des déchets, c'est important, et le traité met en avant et essaie justement de réfléchir aussi à comment on finance, qui va payer pour aider tous les pays à mettre en place des systèmes de gestion des déchets. Mais au-delà même de mettre en place de la gestion des déchets, il y a un enjeu de comment on fait pour mieux produire, moins produire, qui nous permettra de mieux gérer derrière la production des déchets.
Et alors, avant de revenir, de parler de ce point, vous évoquez la question du coût de ces déchets. Matteo Cordier, dans un article sur le site de Conversation, vous expliquez que ne rien faire coûterait encore plus cher parce que la pollution plastique accumulée depuis 1950 coûterait entre 13 700 et 282 000 milliards de dollars en dommages environnementaux. Donc, c'est les coûts du recyclage, de tri, d'élimination, c'est ça?
Alors, c'est le coût de recyclage, du tri et de l'élimination, mais le plus gros coût, c'est le coût pour la santé humaine et le coût pour les écosystèmes. Ouais. En fait, on constate que, si je prends les estimations hautes, mais qui sont, je pense, très sous-estimées en réalité, parce qu'on manque beaucoup de données, si je prends les estimations hautes, ne rien faire pourrait coûter jusqu'à 2 fois plus cher que de mettre en place des actions visant la réduction de la pollution et de la production. Voilà. Et donc, on dit des actions. Donc, je reprends les données. Hein. Le coût des dommages, si on ne fait rien, ce sera 282 000 milliards de dollars, comme vous avez dit, l'estimation haute. 282 000 milliards de dollars, si on ne fait rien. Si on fait quelque chose, en réduisant la production et la pollution, ça va coûter jusqu'à 158 000 milliards de dollars. Donc, à peu près la moitié des dommages si on ne fait rien. Donc autant faire quelque chose, sinon ça nous coûtera 2 fois plus cher.
Donc même les pays producteurs en gros de plastique, notamment les pays pétroliers, même eux, ils devraient payer une facture. Enfin, ils n'ont pas intérêt à continuer à produire du plastique.
Ils n'ont pas intérêt. En fait, le problème, c'est que les coûts sont diffus. Donc quand les coûts pour la santé humaine, tous les cancers, l'infertilité masculine, les problèmes cardiovasculaires dont Eva a parlé, voilà, tout ça, ce sont des coûts diffus. Il n'y a pas d'acteur puissant qui supporte ces coûts, donc tout le monde s'en fiche. Quand on en parle à certaines délégations politiques, ils disent oui, mais on s'en fiche, on s'en fiche, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est tellement dilué au sein de la population que personne n'en prend conscience, donc il n'y a pas de raison de prendre une action politique, puisque il n'y a personne qui va se révolter contre ça, puisque personne n'en a conscience. Il n'y a que des études scientifiques qui mettent ça en lumière, qui mettent les coûts sur la santé humaine en lumière, qui mettent les coûts sur les animaux, la faune marine, la faune terrestre en lumière, mais comme les gens, les citoyens lambda ou les politiques ne le vivent pas dans leur quotidien, eh bien, on s'en fiche, on ne fait rien.
Et alors, c'est...
Et pourtant, ce sont des coûts faramineux.
Et donc, c'est... Et donc on le rappelait, il y a deux pays, un peu deux sortes de pays qui s'opposent. Donc, ceux qui veulent simplement mettre l'accent sur le recyclage et ceux qui souhaitent un accord contraignant qui serait de limiter drastiquement la production de plastique, moins 40% d'ici 2040 pour les pays ambitieux. Eva Moreau, c'est donc c'est la solution la plus efficace pour vous, mais est-ce que c'est vraiment faisable?
J'ai envie de vous renvoyer une question qui est-ce qu'en 2015, on manquait de plastique? 2015, c'est à peu près la quantité qu'on obtiendrait. La quantité de plastique qui a été mise sur le marché en 2015, c'est à peu près ce qu'on obtiendrait quand on demande une réduction de moins 40% de plastique d'ici 2040. Alors bien sûr, il y a une répartition qui est un peu plus homogène sur l'ensemble des pays du monde, mais moins 40%, ça paraît beaucoup, mais rappelons-nous qu'on a une production et une utilisation qui est exponentielle, donc ça me paraît totalement envisageable. Ça paraît envisageable en améliorant la façon dont on consomme, aller vers plus de systèmes autour du réemploi, de la réutilisation, qui n'est pas un retour en arrière, mais qui permet aussi de créer de l'emploi, d'être moins cher aussi pour les collectivités en termes de coûts de gestion des déchets. Et ça, c'est une solution aussi qui est accessible à tous les pays, quel que soit finalement le pays auquel on parle, parce qu'on est sur des organisations qui sont au niveau local.
Il faut aussi convaincre les pays les plus réticents. Comment leur faire comprendre, par exemple leur proposer de ne pas perdre d'argent en fabriquant une autre matière, par exemple, enfin, comment les convaincre?
Tout l'enjeu du traité en ce moment, un des gros points de difficulté du traité, c'est que pour l'instant, on avance par consensus, c'est-à-dire que tous les pays, on essaie d'avoir un accord qui satisfasse tous les pays du monde. Effectivement, les pays producteurs n'ont pas les mêmes intérêts que les pays qui subissent de plein fouet la pollution plastique. Donc, on a un enjeu de comment faire consensus à partir de positions qui sont très différentes. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a des leviers diplomatiques, des leviers politiques qui sont actionnés, des consensus sur certains articles pour aller en avance sur d'autres. Je dirais que la coalition de la haute ambition porte vraiment une ambition forte qui a été notamment rappelée ce soir lors d'une session de négociation en plénière, qu'il faut arriver à un traité d'ici un accord d'ici la fin de la semaine. On est à la cinquième session de négociation, la dernière qui a été prévue sur le sujet. Si on a un accord, il faut qu'il soit fort et rapidement pour endiguer la pollution plastique.
Mathéo Cordier, est-ce que endiguer aussi cette pollution plastique, ça peut aussi passer par sensibiliser plus les consommateurs, ou est-ce qu'on leur a déjà trop dit que c'était un peu de leur faute? Mais par exemple, je ne sais pas, d'autres solutions comme faire payer ou taxer le plastique?
Je pense que c'est sûr que les instruments fiscaux, ça marche bien. Dès que les prix augmentent, la consommation diminue. Donc, ce que certains sociologues montrent dans leurs études, c'est qu'il faut combiner les instruments. On peut faire du fiscal en augmentant les prix des produits polluants, donc les produits plastiques. Il faut aussi faire de la sensibilisation, de la formation, de l'éducation. L'éducation, c'est hyper important. Et l'éducation qui passe par l'émotionnel, par la relation émotionnelle à l'écosystème. Vraiment, dans tous les programmes scolaires, depuis la plus petite enfance jusqu'à l'université, aux études supérieures, peu importe quel type d'études, amener les élèves, les étudiants dans l'écosystème, les faire avec des spécialistes, des biologistes, des chimistes, des gens qui sont compétents, leur faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est un écosystème, un arbre, une rivière, la mer, nager dedans, toucher les arbres, nager dans l'eau, et puis leur montrer les débris plastiques. Les faire aussi, qu'ils puissent les échantillonner, les récolter, les peser, les observer. Et quand ce contact humain aura lieu avec l'écosystème, l'émotionnel entrera en jeu. Et une éducation qui passe par l'émotion, c'est vraiment une éducation qui devient performative, qui permet que la connaissance mène au changement de comportement. Et en effet, il ne faut pas culpabiliser les consommateurs. Un changement de comportement, c'est vraiment reprendre le pouvoir, se dire « je ne suis pas un consommateur, en fait, je suis un être humain, je suis un citoyen et je ne veux pas polluer mon écosystème. Je vais réduire très fortement ma consommation de plastique parce que je reprends le pouvoir sur ma vie et sur mon écosystème. »
Et les discussions donc à Busan, en Corée du Sud, doivent se poursuivre, Eva Moreau. Moreau le rappelait, jusqu'à ce dimanche. Merci d'avoir été avec nous, Eva Moreau, co-créatrice de l'association La Fresque du Plastique. On vous laisse retourner à Sommet. D'abord, peut-être une bonne nuit de repos puisqu'il est tard chez vous. Merci également à vous, Mathéo Cordier, maître de conférence en économie écologique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Université Paris-Saclay. Décryptage, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 17h10, temps universel. Dans quelques secondes, sur RFI, place au débat avec Romain Auzouy. La question du jour, le gouvernement français peut-il tenir ?